session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe le 9 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème, la vérité.
Philosophique serait très intéressant d'étudier le sang. très mystérieux le sang. Pourquoi, dans la grande tradition juive, on ne prend pas le sang de l'animal? Manger cachère. Dans les avions aujourd'hui, on demande ce que vous voulez, les très bons avions. Il y a un repas cachère pour les juifs, on respecte leur religion. Et c'est justement le sang qui est entièrement versé. Là, il n'y a plus le sang. Par respect pour le sang, c'est très curieux de trouver ça chez des gens religieux qui respectent leur religion. Alors c'est symbolique, qu'est-ce que ça veut dire, l'âme est dans le sang? C'est parce que c'est le sang qui anime le vivant. Quand vous perdez votre sang, une hémorragie, petit à petit vous voyez que votre conscience disparaît et votre vie disparaît, et ça va vite, ça va très vite. Le vivant, il dépend du sang. Condition sine qua non pour vivre. C'est la condition sine qua non pour vivre. Et ça circule. C'est pour ça que le cœur, qui, comme disent les biologistes, c'est un organe très simple, le cœur. C'est une pompe. J'ai entendu ça. J'ai des savants qui disent ça. C'est une pompe. C'est vrai. Et là, on voit très très bien la purification, plus exactement la circulation du sang. Et quand le cœur ne va plus, le cœur s'arrête. La mort apparente. Je sais bien que c'est encore plus important d'irriguer le cerveau. Il est irrigué par le cœur, par le sang. Alors je comprends très bien que dans un langage primitif, simple et profond, le symbolisme, c'est quelque chose de très profond. C'est primitif, et ce qui est primitif est quelquefois beaucoup plus profond que ce qui est très civilisé. Ce qui est très civilisé, c'est quelquefois de la dentelle, rien que des trous. Et on ne trouve plus quelque chose qui est stable, qui est fort. Alors on veut exprimer que l'âme, c'est la source de la vie, qui s'exprime symboliquement par le sang. Parce que le vivant, c'est celui qui se meut. C'est celui qui est capable d'assimiler. C'est ça le vivant. Le vivant, c'est celui qui est capable de se nourrir d'une réalité qui est extérieure à lui, qui devient lui. Et quand on est un grand vivant, on assimile tout. Mais pour assimiler, il faut en même temps rejeter ce qui risque d'empoisonner. Et ce qui est terrible, vous voyez, dans la dialectique, c'est qu'on n'assimile plus et on prend tout et on s'empoisonne. À la différence de la connaissance analogique qui fait un discernement entre ce qui est assimilable et ce qui ne l'est pas. Un grand vivant n'assimile que ce qui est bon pour lui. Quand vous êtes malade, vous n'assimilez tout et vous vous empoisonnez. Et on sait très bien que l'empoisonnement par le sang, c'est quelque chose de terrible. C'est des lois très simples, ça. Il y a une hygiène du corps. Il y a une hygiène de la pensée. Si vous assimilez tout ce qu'on vous dit à la télévision ou dans les journaux, vous vous empoisonnez. Il faut pouvoir discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous voyez, donc le problème de la vérité, c'est lutter contre l'empoisonnement. Au point de vue de l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors ils assimilent. Mais ils ne font plus le discernement. qui ne se fait plus. Et là, on répète. On ne vit plus l'instant présent. On répète le passé. Il y aurait des tas de choses à dire là-dessus. Hein. Parce que c'est le grand péril d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous sommes un monde quantitatif et non plus qualitatif. Et le vivant est qualitatif. Et plus il est vivant, plus il est qualitatif. Et donc plus il a besoin. Pensez à ce japonais, ce père japonais à l'égard de sa petite enfant. Il fallait que son toucher ne touche que des choses qualitatives. Parce que les choses qui sont justement fabriquées, le nylon, c'est pas très qualitatif. Et certains êtres très affinés qualitativement ne peuvent pas le supporter. C'est curieux ces choses-là. Et tout est comme ça. Les matières plastiques, c'est pas très qualitatif. Tandis que quand vous regardez les choses naturelles, ah, c'est qualitatif. Dieu a bien fait les choses. Et l'homme, quelquefois, les complète très mal, alors qu'il devrait bien les compléter. Parce que Dieu a été très poli pour l'homme. Il n'a pas voulu réaliser un monde parfait pour que l'homme l'achève. Ça, c'est magnanime de la part de Dieu. Et c'est pour ça que l'art existe et doit exister. Parce que Dieu attend l'œuvre d'art. Il l'attend comme prolongement de sa création. C'est pour ça que Dante dit que l'œuvre d'art, mais l'œuvre d'art aussi bien artisanale, l'œuvre d'art, le pain, le vin, qui sont à la fois des œuvres artisanales extrêmement qualitatives, le bon pain et le bon vin, c'est quand même quelque chose. C'est l'œuvre qualitative, ça. Et Dante dit que l'œuvre de l'homme est petite fille de Dieu. C'est très beau, ça. Le pain, petit-fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est le pain véritable, parce qu'il est le fils bien-aimé. Et le vin, petite fille de Dieu. Alors, après l'apéritif du vin, entrons dans la philosophie. Et découvrons maintenant ce qu'est la vérité. Je vous ai dit hier, prenez toutes les expériences que vous pouvez avoir quand vous dites ceci est vrai. Ça, chacun d'entre nous, on doit pouvoir faire cette palette, je dis bien cette palette, du vrai, de la vérité. Mon langage est vrai. Mes gestes sont vrais. Ma manière d'être est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense quelque chose qui est vrai. Et je vous le communique. Et je vous le communique grâce au langage, grâce aux gestes. Le milieu dans lequel je suis est falsifié. La télévision, est-ce qu'elle communique la vérité ? Ou est-ce qu'elle communique des amalgames dans lesquels on ne peut plus discerner ce qui est vrai ? N'est-elle pas téléguidée par une idéologie du libéralisme, de la fausse liberté ? L'homme peut faire n'importe ce qu'il veut, ça n'a aucune importance. Et par là, on détraque petit à petit les hommes. Vous pouvez, devant un instrument, dire que cet instrument est vrai. Quand dites-vous qu'un instrument est vrai ? Vous voyez, chaque fois que vous qualifiez quelque chose de vrai, vous avez une palette extraordinaire. Vous recouvrez toute chose de cette manière de dire « c'est vrai, c'est authentique ». Et puis vous dites « en plus, je suis sincère ». Je vais partir de là, si vous voulez, pour creuser. voyez, des personnes qui ont des idéologies en tête, ils peuvent être très sincères. Et puis, est-ce que c'est vrai? Alors, on va creuser, vous voyez, c'est toujours important, étant donné notre manière de connaître, de voir deux choses qui sont très proches et qui sont en même temps très différentes. La sincérité est d'ordre affectif. Les grands affectifs sont sincères. Ils sont sincères. Et ils ne cherchent plus la vérité, la sincérité. Il peut y avoir dedans des tas de choses. La vérité est de l'ordre de l'intelligence. Et ça, c'est quelquefois très proche. Cette distinction entre sincérité et vérité est typiquement humaine. Je ne peux pas dire que Dieu est sincère et que pour lui la vérité n'est pas sa sincérité. C'est impossible. Je ne peux pas dire que Jésus était sincère et qu'il était à côté de la plaque. Comme je peux dire d'un homme qui est un tout petit peu pris par un somnambulisme, il se réveille qu'à midi. Jusque-là, il est somnambule. Un somnambule est très sincère. C'est pour ça qu'on lui dit, ne le faites pas sortir sa sincérité. Ce serait trop dangereux. Mais il n'est pas dans la vérité. Il est dans son monde. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est dans son cocon et qu'il n'en sort pas, alors il peut être sincère. La sincérité est d'ordre affectif. La sincérité, c'est dire quelque chose qui correspond à l'orientation de notre vie, à notre inspiration. Un artiste peut être sincère. Et il y a beaucoup de personnes qui sont quand même moins sincères comme ça. L'autre jour, on m'a raconté une petite histoire actuelle qui s'est passée dans le métro à 11h du soir. Il se passe beaucoup de choses à 11h du soir dans le métro. Je le prends exprès de temps en temps pour me tâter le pouls. C'est important. On apprend bien plus de choses qu'au cinéma, vous savez, bien plus. Parce qu'on voit ce que c'est que la réalité humaine quand elle est fatiguée. Alors, on m'a raconté cette histoire, et celui qui me l'a raconté m'a certifié que ça s'était passé comme ça. Il y avait personne fatiguée, l'enfant fatigué, 11h du soir, puis une brave dame juste en face. Et l'enfant donnait des coups de pied à la personne qui était en face. Alors la personne dit, mais vous êtes madame, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter votre enfant à donner ses coups de pied? Elle dit, ah non, moi j'ai dit que mon enfant il fait ce qu'il veut. Elle l'a redit. Ah non, pas du tout. Je l'éduque comme ça, j'ai le droit d'éduquer comme ça, il fait ce qu'il veut. Il aime de vous donner des coups de pied, tant pis. De dire bonjour. Était-il sincère? Était-il dans la vérité? Mais 11h du soir, ce qui se passe dans le métro. Est-ce que c'est sincère? C'est sûrement sincère. Est-ce que c'est la vérité? Allez, je prends exprès cet exemple, parce que c'est pas si commode que ça. Au point de vue artistique, au point de vue du fat chéré, c'est un coup de foudre, c'est un feu d'artifice, c'est un an, ça. Après tout, elle peut comprendre que ça. Au point de vue de l'agir humain, de la charité chrétienne. Vous voyez que quelque chose peut être vrai à un niveau et pas à l'autre. Ben vous avez un exemple, on en prendrait des quantités, je vais de vous dire, prenez le métro, pas les jeunes filles. Non, c'était quelquefois, vous savez, il y a quelquefois de ces scènes. Et quand on y va en religieux, c'est assez assis. Alors, on voit très bien, les gens ont une ivresse pieuse ou une ivresse colérique. Ça fait dévoiler l'habit religieux, exige la sincérité des gens. Tout de suite. Alors on voit certains qui sont vraiment furieux. J'ai vu dans le train, ça m'est arrivé quand j'allais de Fribourg à Paris la nuit, j'ai vu dans le train des scènes extraordinaires. Je cherche un compartiment où on est seul pour pouvoir dormir un peu tranquillement. C'était avant les couchettes. Deux minutes j'étais là, quelqu'un a senti son poignard. Il était entouré de deux bouteilles. Pas bougé, hein, parce qu'il faut pas. Je suis resté dans mon coin. Grâce à Dieu, est entré un valaisan. Alors, quand il a vu ça, il a dit : mon vieux, attention ! Puis il a montré sa main, elle était toute prise de cicatrices de droite et de gauche. Alors, il m'a raconté : ça m'est arrivé à New York, ça. Le soir, je sortais, il y en a un qui m'a attaqué. Alors, un valaisan, faut voir ce que c'est un vrai valaisan. Hein. Il s'est mis à prendre le couteau à pleine main, puis l'a retourné.
Se mettre sur son parcours.
façon, point de vue moral, en raison d'une intention de vie, d'un bien qu'on cherche. Et on est vrai si l'acte qu'on pose est conforme à cette intention de vie. Alors on pose un acte qui est vrai et qui peut être sincère du reste. Vous voyez, la vérité n'exclut pas la sincérité, mais la vérité est au-delà de la sincérité. L'idéal, quand on a affaire à un homme qui cherche à être vertueux, alors il y a coïncidence entre sincérité et vérité. Mais si on a affaire à un être qui n'est pas vertueux et qui est très passionné, sa sincérité, ce sera de suivre sa passion. Un ivrogne, ben, il est sincère. Je l'affirme que cet ivrogne devant lequel je me trouvais, il était sincère. Il m'a dit ouvertement, je n'aime pas les curés. Ben, il est sincère, il n'aime pas les curés. Parce qu'il a sur le dos sans doute une vieille petite querelle ou bien tout simplement quelqu'un lui a dit des tas de choses et il n'a pas vérifié. Je n'aime pas les curés. Et son vin augmentait sa passion, comme toujours. Au contraire, ça arrive. Un ivrogne, à moitié, pas complètement, qui cuve son vin, se précipite sur un curé. Oh, je vais me confesser. Ça m'est arrivé aussi, ça. Là, il a le vin pieux, vous voyez. Il a le vin pieux, lui. C'est, ça augmente son désir, parce qu'il sent que. Il sent sa conscience culpabilisée. Il veut découvrir quelque chose de vrai en lui. Et le curé est porteur de ça. Et c'est vrai, l'habillé, à ce point de vue-là, c'est... Alors, les psychologues diront que c'est un surmoi, si vous voulez. Mais quand ce surmoi est vrai, c'est plus un surmoi. C'est le rappel d'autre chose. C'est un des tas de petits souvenirs comme ça, on voit très très bien la vérité. C'est d'être en face de la réalité et de pouvoir dire quelque chose qui est conforme à cette réalité. Ma parole est vraie. Quand je vois quelqu'un en face de moi qui est assis, je vous dis, vous êtes assis. Et c'est vrai, vous êtes assis. Et puis, tout d'un coup, vous vous levez. J'ai fermé les yeux. Et je continue, comme un perroquet, je continue de dire, en fonction de mon idéologie, vous êtes assis. Nécessairement, quand vous m'écoutez, vous êtes assis. Ça ne peut pas être autrement. Il s'est levé. Je continue, vous êtes assis, parce que vous m'écoutez. Ah, je dis, c'est plus vrai. Il est debout. Vous voyez pas, il est debout. On raconte cette histoire, je donne exprès ces exemples. Sartre, à la fin de sa vie, parlait beaucoup, 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 et très longuement. Conférence, beaucoup de monde, il dépasse une heure et demie, les gens s'en vont. C'est normal. Alors, cas de conscience du dernier, va-t-il partir sans rien dire, et l'autre continuera à parler devant un auditoire vide? Ou alors faut-il aller dire à Sartre, je suis le dernier, j'ai un rendez-vous, je suis obligé de partir, et il n'y a plus personne. Quelle serait là votre option? Quelle est l'option de vérité là? Quelle est l'option de sincérité? Vous voyez, c'est au fond intéressant ces choses-là, parce que ce sont des cas extrêmes. C'est évident que c'est un cas extrême. Normalement, quand on est là, on dialogue. On dialogue avec quelqu'un. On ne fait pas un cours devant personne. On fait un cours devant telle ou telle personne. Donc le dernier est responsable de tous ceux qui sont partis. Il porte cette responsabilité. Il n'y avait jamais pensé. Il n'était pas venu pour être le dernier. Il portait toute cette responsabilité. Donc subitement, il se trouve responsable de tous ceux qui sont partis. En se disant, est-ce que je vais l'avertir ou pas? Évidemment, il est parti sans rien dire. Je comprends très bien, du reste. Vous voyez, c'est la sincérité. Et dans ce cas extrême, c'était peut-être la seule solution. La vérité aurait consisté de dire, je suis là, vous me parlez, mais c'est l'heure. Je ne peux pas rester. Et essayez de comprendre ces deux attitudes qui sont extrêmement importantes pour nous. Alors, je reprends l'exemple tout simplement, la vérité de la parole, puisque c'est celle-là dont j'ai directement l'expérience. La vérité de la parole consiste à dire exactement ce qu'est la réalité. Vous avez fait un voyage extraordinaire, merveilleux. Vous avez été à Patmos. Et vous avez été dans la grotte où Saint Jean a reçu la révélation. C'est un lieu non seulement historique, mais c'est un lieu saint. Vous revenez et vous dites à ceux qui n'y ont pas été, voilà ce que j'ai vu. Et si vous êtes Marseillais, vous en ajoutez. Et vous savez très bien que vous en ajoutez. On dit, ah, mais tu mens. Mais non, c'est pour bien vous montrer ce que c'est. C'est la sauce qui, un peu piquante, qui permet de mettre un peu de relief. Parce qu'autrement, on ne comprend pas. C'est poétique. Le poète ne ment pas. Mais ce n'est pas un langage historique. On en ajoute. Vous voyez, le langage fait qu'on peut en ajouter pour des choses plus piquantes. Ça devient un langage symbolique qui est très différent du langage historique où on raconte les faits. Alors, où est la vérité? Je vois qu'il y a deux vérités dans le langage. Il y a la vérité du poète. Le poète a parfaitement le droit de prendre un langage un peu piquant. Parce que s'il est poète, il est toujours un tout petit peu caricaturiste. Il a retenu une chose. Le nez de cigale de quelqu'un, un grand nez. Il n'y a que ça. Ou le regard. Ou la tenue. Je me souviens, c'était Marthe, la petite Marthe, qui était aveugle. Et qui me parlait de quelqu'un qui était venu. Elle m'avait dit, oh, si vous aviez vu son corsage. Et je voyais très bien ce que ça voulait dire. C'est un langage poétique. Elle n'avait rien vu. Mais ça avait évoqué ça. Le poète, c'est ça. Alors, il est pris par cette évocation. Et il prend un langage symbolique. Alors, dans le langage même, vous voyez, il y a différents types de vérités. Il y a le langage du témoin. Celui qui est là et qui dit, je témoigne. Saint Jean témoigne de ce qu'il a vu auprès de la croix. Et il dit qu'il est témoin. Et que son témoignage est vrai. Il le dit, son témoignage est vrai. Il parle en homme qui aime son ami, qui aime un autre homme. Et il a des témoins de la manière dont tout s'est achevé. Tout s'est terminé. Alors, il dit la vérité. Et quand vous êtes témoin d'une chose, vous dites, voilà ce qu'il y en est. Et si on ne veut pas vous croire, vous dites, je vous affirme, c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ajoute rien. Qu'est-ce que c'est que la vérité à ce moment-là du langage? C'est d'être en conformité avec la réalité telle qu'il l'a vue. Et je dis bien telle qu'il l'a vue. Parce que nous ne sommes jamais des appareils photographiques. Et même dans les appareils photographiques, on peut donner 60 photos du portrait du buste de Marie de l'Incarnation. Je suis bien passe artistique. Donc c'est symbolique. Quelle est la vérité d'un symbole? C'est tout à fait autre chose. La vérité d'un symbole a toujours un fondement dans la réalité. Toujours. Mais il y a une mise en lumière. transmet de cette manière-là. Oui, c'est donc quelque chose de la réalité. Il y a bien eu cette personne étrange qui est venue la voir. Et ce qu'elle a dit était encore plus étrange. Et donc a évoqué quelque chose de très particulier. C'était pas une personne comme les autres. Et alors, le symbolisme se fonde sur la réalité, mais il manifeste quelque chose qui provient de l'émotion de celui qui parle. Émotion affective, émotion poétique. Et c'est vrai, dans la mesure où ce symbole transmet l'émotion de la personne. Pas uniquement le fait, mais l'émotion de la personne. Pour que celui qui reçoit ça soit lui-même pris par l'émotion. On nous dit, c'est l'Église. Et là, je prends tout simplement à titre d'exemple. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont dans un langage poétique et symbolique. Ne prenez donc pas un aspect historique, c'est symbolique. Parce que Dieu a plongé Adam dans un sommeil et Dieu a fait l'œuvre du chirurgien. Il a pris une goutte, il avait une de trop, et puis il a fait la femme. Et c'est tout à fait symbolique. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est ça l'intérêt. Qu'est-ce que ça signifie? Le symbolisme exprime quelque chose, quelquefois, de beaucoup plus profond, de plus primitif, qu'un langage purement historique qui raconte des faits. Alors voyez, vous avez là deux mesures, tout de suite, de la vérité. La vérité d'un langage narratif, historique. J'essaie de dire exactement ce qui a été. Et j'étais là pour être un témoin qui essayait de comprendre le mieux possible ce qui se passait. Puis ensuite, vous avez le langage poétique, affectif, qui se sert d'un symbole à partir de la réalité pour évoquer quelque chose de très profond. Cette réalité que j'ai vécue auprès de cette personne, si je prenais un langage purement narratif, ce serait assez plat. Si au contraire je prends un langage symbolique, ah, je peux évoquer quelque chose de très grand. Alors la mesure, alors c'est ça qui m'intéresse au point de vue philosophique. Ce qui m'intéresse au plan philosophique, c'est que quand je dis que ce langage est vrai, j'exprime toujours une relation. La signification de ce langage correspond à la réalité. La signification de ce langage poétique est en relation avec l'émotion que j'ai ressentie en face de tel fait. J'étais pris, j'étais saisi, et j'exprime ça symboliquement pour que transmettre mon émotion. L'émotion, ça ne se transmet pas mathématiquement. Il n'y a pas beaucoup d'émotions dans les mathématiques, sauf l'élégance d'un théorème. Alors à ce moment-là, il peut y avoir une certaine émotion, mais normalement, il n'y a pas d'émotion, c'est comme ça. Comme dans la justice, il n'y a pas beaucoup d'émotion. Ceci coûte tant. Alors évidemment, le marchand qui veut faire passer sa marchandise peut être un poète. Si vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, c'est l'occasion unique, parce que demain, ça disparaîtra. Quelqu'un viendra qui sera plus intelligent que vous, le prendra tout de suite, parce qu'il sait qu'il pourra le revendre dans quelques années bien plus cher. Alors il fait son baratin, comme on dit, et ce baratin peut être vrai. Il est faux, historiquement, parce que dans la boutique à côté, il y a exactement la même chose. Donc il est faux, historiquement. Vous savez, ça, chez les marchands de tapis, on voit ça, et on dit toujours, c'est les marchands de tapis. Alors, il y a une vérité. La vérité, c'est de convaincre l'autre. Et la vérité correspond à ce qu'il dira pour convaincre l'autre. Et s'il convainc l'autre, il est vrai, comme marchand de tapis. Dans son baratin. Son baratin est entièrement fou. Mais il a un art extraordinaire, pour dire ça. Un art tel que on est émerveillé. Et uniquement pour lui faire plaisir, on prend. Ça arrive, ça. Parce qu'on est ému soi-même de ce baratin. Donc vous voyez, la vérité varie. Alors maintenant, entrons dans quelque chose de beaucoup plus profond. Restons pas seulement dans le langage. Le langage exprime normalement ce que je pense. Alors y a-t-il une vérité dans la pensée ? Il faudrait justifier ici, parce que quelquefois certains n'acceptent pas qu'il y ait une différence entre la pensée et le langage. Il y a des gens qui pensent, qui croient que l'expression de la parole, c'est ma pensée. Je ne pense que quand je parle. Ça arrive, ça. Il y a des gens qui ne pensent que quand ils parlent. C'est vrai que parler aide la pensée. C'est sûr. Mais normalement, philosophiquement, selon la vérité philosophique, normalement, on pense avant de parler. Et on communique aux autres ce qui nous semble être la vérité. Quand on fait un cours de philosophie, normalement, on a pensé avant. Mais c'est vrai que l'auditoire est porteur parce qu'on parle à des personnes qui sont vivantes et on communique en s'adaptant à son auditoire. Cette fameuse adaptation aujourd'hui, il faut s'adapter aux gens. Si on ne s'adapte pas, je me souviens là aussi un petit exemple. Vécu dans un couvent, je ne dirai pas les noms, mais ceux qui connaissent l'exemple comprendront tout de suite. C'était deux pères très respectables, deux théologiens très respectables, faisant la recension du livre de l'autre. Alors on amplifie poétiquement, ils font ça la même nuit. Et quand il a terminé de lire le livre et qu'il a fait sa recension, charitablement, il va déposer un petit billet doux à la porte de celui de son frère qui a écrit le bouquin. Il aime mieux mettre ça par écrit que de lui dire. Et il dit, quand je lis votre livre, je cherche mes enfants pour qui vous écrivez. L'autre fait la recension la même nuit. C'est là l'aspect poétique et rhétorique. La même nuit, prend l'escalier. Pensée est vraie. ce que je dis est vrai ou faux. Quand je dis comme le prophète, ah, 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 il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a uniquement un cri. Quand je dis blanc, animal, raisonnable, antérieure à la vérité. La connaissance de la saisie des diverses déterminations, des diverses qualités de ce qu'est la réalité. La vérité apparaît dans le discernement du jugement. Le jugement discerne. C'est le mot grec qui est merveilleux. Pour le grec, juger, c'est krinein. Discerner. Quand on juge, on discerne. Et tout discernement implique un jugement. Vrai ou faux. La proposition affirmative est un jugement. Et j'y adhère plus ou moins. Mais c'est un jugement. Et possède, la vérité possède. J'essaie de comprendre ce qu'est la pensée au niveau du jugement. Avant de l'exprimer, avant de le dire, ma pensée est vraie si elle est conforme à la réalité que j'essaie d'atteindre, que je connais. Encore, cette pensée, elle est à des niveaux différents. Alors ici, il faudrait voir tous les niveaux rapidement. Et c'est pour vous montrer la complexité du problème vérité et l'importance de ne pas être univoque dans la vérité. Surtout au plan religieux. Quand je suis dans une pensée mathématique, je ne sais pas à quelle hauteur je situe la pensée mathématique, mais la pensée mathématique a une certaine noblesse. Je suis à un niveau d'intelligibilité. Alors je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que la vérité mathématique, de la pensée mathématique? Il y a une vérité en mathématiques. Le mathématicien veut dire quelque chose de vrai. Et quand il pense quelque chose qui est vrai. Cette pensée mathématique n'est pas au même niveau que la pensée philosophique. Puisque je suis philosophe, je mets la pensée philosophique au-dessus. Puisque je suis philosophe, vous comprenez bien. Un mathématicien dirait, il y a la pensée mathématique à ce niveau. Mettez 5000 mètres de vol. Je mets 10 000 mètres de vol. Hein, vous voyez bien. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Et puis, il y a la pensée de celui qui fait du baratin. Celui qui vend ses tapis. Alors là, ça ne vole pas très haut. Alors, je ne sais pas, vous êtes baratin. Ouais, bah, marchand de tapis, si vous aimez mieux. Le marchand de tapis se multiplie. Hein. Je me souviens d'un de mes anciens élèves de Fribourg, qui était un Écossais remarquable. Et il avait comme métier au début, il devait présenter la marchandise d'une grande firme. Alors il passe à Fribourg. J'ai appris auprès de vous ce que c'était que la vérité. Eh bien, je suis dans le mensonge toute la journée. Parce que je baratine, je veux faire passer tout ce que ma firme fait en disant que c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, je sais que je pense qu'il y a de meilleur. Alors, je dis, attention, vous êtes poète, vous êtes artiste, vous essayez, vous êtes commerçant. quelle est la vérité du commerçant qui essaie de passer son truc. Très différent. Ça vole pas très haut. L'homme était 100 mètres. 100 mètres à cause du bonhomme qui dit ça, qu'une virtualité, une qualité extraordinaire, pas le contenu, mais la manière dont il le dit. Il faut reconnaître la manière dont il dit, c'est admirable. Il raconte des histoires étonnantes. Donc, 100 mètres. Et puis, il y a celui qui tout simplement achète au marché. Vous avez des carottes, très bien. Alors là, 5 mètres. La hauteur des carottes. Des très belles carottes. Si vous êtes jusqu'à meilleur. Bon, vous avez donc une pensée qui a des niveaux différents. Et la pensée scientifique. La pensée scientifique. Le matheux pur en face du physicien, en face du biologiste. Il utilise les mathématiques. Je me souviens de ce matheux pur qui disait avec un peu de mépris, polytechnique. Vous voyez, donc les techniques multiples. Et c'est vrai, le matheux pur, il est espèce de noblesse, de l'intelligence extraordinaire. Alors le matheux pur dirait, la noblesse au moins l'intelligence, et puis à côté la philosophie. On vole à la même hauteur, on se rencontre de temps en temps, et les rencontres sont dures, parce qu'on va vite. Et c'est vrai, d'une certaine manière, je comprends très bien, il y a deux noblesses de l'intelligence, la mathématique et la métaphysique. Il y a deux noblesses de l'intelligence. Mais je mets en tant que philosophe la noblesse philosophique et de philosophie première, la métaphysique au-dessus, parce qu'elle regarde l'homme. Quant à son contenu, la philosophie passe devant, parce qu'elle regarde la finalité de l'homme. Mais quant à sa méthode, les mathématiques passent devant. Ils ont une certitude plus grande. Ils ont une évidence plus grande. Parce que ça colle parfaitement avec mon intelligence humaine. De sorte que je peux très bien dire, voyez, il y a réciprocité. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que tous ces niveaux de pensée, quand ils atteignent une certaine perfection, sont vrais. Tous ces niveaux de pensée sont vrais. Mais la référence de la vérité est différente pour le philosophe, pour le mathématicien, pour le savant, pour l'artiste, pour le rhétoricien, l'apologiste, celui qui est apologète des produits de son usine. Le baratin, il a une autre mesure. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Vous pourriez ajouter à tout cela l'homme qui aime son ami, l'ami qui regarde son ami et qui dit ce qu'est son ami, connaissance affective. Chacune de ces connaissances est à un niveau différent. Il y a une référence différente, un critère de vérité différent. Quel est le critère ? On va essayer de préciser maintenant, pour qu'on voit bien les différents niveaux de vérité. Le philosophe, le métaphysicien, la philosophie première, quel est son critère de vérité ? C'est la réalité existante. Je ne fais pas la philosophie des possibles. Ce serait imaginaire. On attend du philosophe une connaissance de l'homme. Et le philosophe doit connaître l'homme. L'homme tel qu'il est. Avec toutes les différences entre l'homme qui justement ne fait pas de philosophie cultivé, l'homme incultivé, celui qui sait parler, celui qui ne sait pas parler, ainsi de suite. Mais c'est l'homme. Ce qu'il dit, ce qu'il pense, à partir de son expérience, à partir de l'analyse qu'il fait, doit toujours être en référence à la réalité de ce qui est. L'homme saisit en tant qu'il est, en tant qu'il est un être, en tant qu'il est. La métaphysique, c'est ce qui est sa référence. Ce qui est en tant qu'être. C'est l'homme en tant qu'être. Ce qui aboutira au terme de dire que l'homme est une créature. Et la plus belle des créatures. Parce que par l'être, je me poserai le problème, existe-t-il un être premier ? Que les traditions religieuses appellent Dieu. Et je viendrai au problème de la création. Et d'un par le problème de la création, je pourrais regarder l'homme comme dépendant de l'être premier, du créateur. Et je dirais, il est une créature. Parce que quand je vois quelqu'un directement, je ne dis pas, oh, quelle belle créature. Non, je dis bonjour. Et je vois, et je regarde cette réalité nouvelle. J'ai encore jamais vu ça. C'est vrai, chaque fois que je vois quelqu'un, j'ai encore jamais vu ça. Chacun d'entre nous, on est un inédit. On n'est pas une série. Quant à notre habit, on est dans la série. Surtout avec l'habit monastique. On est dans la série. On a tous le même. Vous voyez, là, on ne veut pas jouer. Quand on a un habit somptueux, alors à la place de regarder la figure, on regarde l'habit. C'est vrai, quand quelqu'un entre avec un habit extraordinaire, la figure disparaît. Puis on regarde l'habit, tiens, extraordinaire. Quelle qualité d'habit, je n'ai encore jamais vu ça. Je ne regarde pas la physionomie. Tandis que quand vous voyez quelqu'un qui a l'habit de tout le monde, ne faites aucune attention, vous regardez les yeux, regardez le visage, c'est tout attentif. Mais la mode trompe. On peut se rendre intéressant et on s'efface devant le mannequin. C'est extraordinaire. Et c'est le mannequin qui apparaît. Tout le monde regarde la robe de la mariée et pas le visage. C'est ennuyeux. C'est extraordinaire ces choses-là. Mais écoutez, c'est ça, on entend ça. Voyez, c'est que le philosophe ne s'occupe pas de la mode. C'est pas commode. Et il essaie de saisir la réalité. La mode est finalisée par la réalité. Et quand la mode efface la réalité et qu'elle s'impose, c'est l'apparaître. On est un sophiste. Le sophiste, c'est celui qui ne regarde que l'apparence, la mode, et qui ne s'intéresse plus à la réalité. C'est pour ça que le sophiste se drape du manteau du philosophe, le manteau à la mode. Parce que les sophistes aujourd'hui ne sont pas les sophistes du temps d'Aristote. Et les sophistes aujourd'hui ne seront pas ceux de demain, parce que la mode aura changé. Vous voyez, la mode, c'est ce que disait Héraclite. Pas de pareil, ça compte tout le temps. Ça change l'été, le printemps, le... tout le temps. Et l'année, le visage reste le même. Ah, c'est curieux. Très étonnant, ça. Le philosophe se réfère à la réalité. C'est pour ça que pour le philosophe, il est tout à fait exact de dire « Ma pensée est vraie. » Quand elle est conforme à la réalité. Mais ma pensée, je ne dirais pas mon intelligence, ma pensée, ce que je pense, ce que je juge, est vrai s'il est conforme à la réalité. Si ce que je dis n'est pas conforme à la réalité, c'est je ne suis plus dans la vérité. Je suis dans l'errance. philosophie est en référence à la réalité et en définitive à l'homme. Le philosophe s'intéresse à l'homme dans toutes ses dimensions. Il s'aperçoit que la personne humaine a 7 dimensions. C'est pas pour avoir le chiffre 7, mais c'est assez normal. 7 dimensions. La réalité. La vérité mathématique. Ah ! Le mathématicien ne se réfère pas à la réalité existante. Il y a une mise entre parenthèses de la réalité existence, du jugement d'existence. J'aime beaucoup les mathématiciens et j'aime beaucoup dialoguer avec eux. Et quand je dialogue avec un vrai matheux, ça m'intéresse toujours beaucoup. Quelle est sa référence? Il s'est donné à lui-même les points de référence. Parce que l'être mathématique est un être que l'homme a réalisé, a fait. C'est le chef-d'œuvre de l'homme, l'être mathématique. Et ça aboutit au robot. Ça aboutit à l'ordinateur. C'est très fort tout ça. Ça aboutit aux pyramides. L'être mathématique, c'est l'être que l'homme a fait. C'est très difficile de préciser ce que c'est que l'être mathématique. Parce qu'il y a un être mathématique. Mais l'être mathématique, c'est pas l'être qui existe en dehors de moi. C'est pas Dieu qui l'a créé. Petit-fils de Dieu. L'être mathématique. C'est vrai, puisque c'est l'homme qui l'a fait. C'est, j'allais presque dire, c'est la première œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art la plus formelle, la plus dépouillée, la plus simple. Alors, quelle est la vérité de l'être mathématique? L'être mathématique est vrai en raison des conclusions. C'est toujours dans une conclusion. Parce qu'une intuition, est-ce qu'elle est vraie? Une intuition mathématique. Quand Poincaré décrit admirablement ce que c'est que l'intuition mathématique. L'intuition, comme intuition, n'est ni vraie ni fausse. On va la vérifier. Mais la vérifier pas par rapport à la réalité, voire sa fécondité. Ah. Comme toute hypothèse, elle est vraie en raison de sa fécondité. Si on voit qu'à partir de là, il y a une fécondité prodigieuse de raisonnement, on dira, oh, c'est merveilleux cette intuition. Elle est source de fécondité. Et les conclusions sont vraies en référence au point de départ. Au point de départ, aux axiomes qu'on a pris au point de départ. Donc, c'est une vérité dans l'immanence du cerveau mathématicien, du cerveau du mathématicien. C'est une vérité qui a son critère à l'intérieur même de la pensée mathématique et pas en dehors de la pensée mathématique. C'est pour ça que le mathématicien a une telle autonomie, a une telle noblesse. Il pourrait dire, hein, comprenez bien, la devise de celui qui, au Saulchoir, chez les Dominicains, quand on était à Étiole, il y avait un château juste devant, de l'autre côté de la Seine. Et on a remarqué cette devise admirable, admirable, étonnante. Ne jamais rien demander à quelqu'un pour ne jamais rien redevoir à quelqu'un. Vous voyez, la suffisance. Le mathématicien ne demande rien au philosophe. Il ne demande rien au physicien. Il ne demande rien. Il a son autonomie de mathématicien. C'est un autocrate merveilleux. Il a en lui-même son propre développement. Et donc son critère de vérité est dans l'immanence. Alors il peut, le mathématicien peut-être, parce qu'il est un homme, peut-être philosophe. thèse de mathématiques. Et après sa thèse de mathématiques, il a voulu être philosophe. C'est Husserl. Celui qui avait toute une philosophie de la phénoménologie. C'est très intéressant. Parce que le point de départ de la phénoménologie, c'est la mise entre parenthèses du jugement d'existence. Et donc, c'est chercher à l'intérieur de la pensée du philosophe quel est le prototype, quelle est la référence. Je parle de table, par exemple. Oui, table. Il y a des tables, il y a des tables ici. Il y a des tables dans un musée. Quelle est la référence de la table, le prototype, la cause exemplaire, le premier dans le genre de la pensée table. Et je ne pourrai savoir ce qu'est la table que quand j'aurai atteint le premier. Vous voyez, la référence, le modèle. La référence, ce sera le modèle. Alors ça, c'est des mathématiques appliquées. Parce que des mathématiques ont une référence encore plus profonde que le modèle. C'est tout simplement le point de départ pour voir s'il y a un développement homogène. Et le développement homogène sert de critère de vérité. Ce qui montre bien qu'on est dans l'immanence parfaite. Mais il y a une certaine vérité mathématique. Je ne dis pas du tout que le mathématicien n'a pas de vérité. Non, non. Mais une vérité tout autre que celle du philosophe. Tout autre. La vérité de l'ami par rapport à son ami. C'est une vérité affective. J'aime beaucoup Pierre. Il est admirable. Il est intelligent. Il est doux. Il est fort. Il est merveilleux. Il a toutes les qualités. Un psychologue arrive. Il dit, vous vous trompez complètement. Voyez pas tous les défauts de Pierre. Cette manière de se tenir, quoi. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Puis commence à faire l'analyse. Ceci met en fureur l'ami de Pierre. Disant, vous voyez, vous, de l'extérieur. Moi, je vois de l'intérieur. Quand vous faites un test psychologique, j'ai connu très bien des psychanalystes. J'ai dialogué avec eux pendant plusieurs années. C'est eux qui sont venus me chercher. Un dialogue entre Aristote et Freud. C'était intéressant. Très, très intéressant. Un ami voit les choses de l'intérieur. Un psychologue les voit de l'extérieur. Il fait des tests. Alors je disais à ses amis psychologues, est-ce que vous avez fait le test de l'intelligence? Parce que si vous regardez les tests et vous regardez sur quoi ça repose, c'est toujours l'œuvre artistique. C'est toujours le fait de faire quelque chose. On fait quelque chose. Il y a des tests affectifs au niveau passionnel, mais pas au niveau de l'amour d'amitié. Niveau de ce qui est mesurable. Et l'ami, quand il aime son ami, il est sûr qu'il le regarde de l'intérieur. Parce qu'il l'aime. Quand on aime quelqu'un, on le voit de l'intérieur. Et on ne voit plus que ses qualités. On sait bien qu'il y a quelques petites limites. Il y a des jours une mauvaise humeur. Non, tu sais rien, il est très fatigué. Tu verras demain, il sera reposé. Alors il est charmant, c'est un autre homme. Il y a des jours où mon ami est fatigué parce qu'il fait tellement de choses. Alors il est fatigué. Faut pas s'inquiéter. Vous voyez, il excuse tout. Il voit tout de l'intérieur. Tandis que le psychologue, il peut être objectif, comme il dit. Mais quelle est l'objectivité par rapport à la personne humaine ? voyez avant tout sa sensibilité, son corps. De l'intérieur, voyez son âme. Qu'est-ce qui est de plus précieux pour la personne humaine? Découvrir son âme ou découvrir son corps? Il faut découvrir les deux, c'est sûr. Mais il y a un ordre. L'âme porte le corps quand on est en face d'un grand vivant. Et ce n'est pas le corps qui porte l'âme. Quand c'est le corps qui porte l'âme, vous avez affaire à quelqu'un qui ne vit plus beaucoup. Va comme je te pousse, vous savez. Parce que vous poussez un corps, vous ne poussez pas une âme, vous l'attirez. L'âme est attirée par le bien. Et le corps, il faut le pousser de l'extérieur pour qu'il bouge. Certains êtres, vous ne pouvez les faire avancer que comme vous faites avancer un âne en tapant dessus. Alors il avance un tout petit peu, vous le poussez. D'autres personnes, vous les faites avancer en montrant un bien spirituel. Alors ils avancent par l'âme. L'ami sait que son ami est capable d'aimer. Il n'avance qu'en aimant. Il ne va pas du tout dire qu'il avance en tapant dessus. Non, pas du tout. Causalité finale, causalité efficiente, le résultat. Un psychologue regardera les résultats. Un ami regarde la manière dont son ami agit. Donc voyez, vous avez là deux vérités. La vérité du psychologue et la vérité de l'ami à l'égard de la même personne. Quel est le critère de vérité de l'ami et du psychologue? C'est ça qui est intéressant. D'évaluer la différence de critères de vérité. Le critère de vérité d'un ami, c'est l'amour qu'il a pour son ami. C'est en référence à cet amour qu'il a pour son ami que tout est regardé. Donc ce n'est pas son intelligence et la connaissance qu'il a de son ami de l'extérieur, quand il le juge de l'extérieur, qui est le critère de vérité. C'est l'amour qu'il a pour son ami. Alors là, on touche quelque chose d'extraordinairement intéressant et qui est capital. Tout amour d'amitié implique une certaine connaissance de l'ami. Mais qu'est-ce qui détermine l'amour d'amitié? Est-ce la connaissance que j'ai de mon ami ou l'ami lui-même? Et je crois ça capital. Il faut une certaine connaissance pour aimer volontairement, pour aimer spirituellement. Il faut une certaine connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance qui détermine mon amour. C'est le bien, la personne elle-même, considérée comme mon bien. Le jour où vous mettez la connaissance comme critère de vérité de votre amitié, vous détruisez votre amitié. Il n'y a rien de plus pour la détruire complètement. La plupart des divorces viennent de là. C'est très facile à comprendre, ça. Parce qu'on n'éduque pas les hommes vis-à-vis de l'amour. Ils croient que c'est spontané. Un sentiment, c'est spontané, mais pas l'amour. L'amour, ça s'éduque. Et un amour grandit selon ma volonté. Je suis responsable du degré de mon amour vis-à-vis d'un amour, d'un ami, tandis que je ne suis pas responsable de mes sentiments. Voyez, je prends tout simplement deux personnes au point de départ, qu'elles se sont mariées, mais elles s'aiment quand même, tant qu'elles ne sont pas mariées. Et il y a le début d'un amour d'amitié. Et puis alors, on a oublié de s'éduquer. Alors, on aime l'autre dans la mesure où il m'aime, dans la mesure où j'ai la connaissance de son. Si au contraire, je sais que l'amour d'amitié est une chose que je conquiers progressivement, je conquiers un amour d'amitié et je veux le conquérir. J'aime l'autre pour lui-même. Je vois qu'un jour il est fatigué. En apparence, il m'aime moins. En réalité, il m'aime autant. En apparence, il m'aime moins. Je veux alors conquérir son cœur encore plus. Et à la place de répondre à un moins, je veux aller plus. Je crois qu'on a des conceptions très fausses depuis Descartes. Descartes est terrible là-dessus. Parce que pour Descartes, l'amour, c'est un sentiment. Et la volonté est une volonté d'efficacité. La volonté n'est pas une capacité d'aimer. Alors que pour Thomas d'Aquin et pour Aristote, la volonté est une capacité d'aimer. Il faut aimer volontairement, c'est-à-dire spirituellement. Et donc il faut conquérir cet amour. Si je ne cherche pas à le conquérir, et si je suis toujours à répondre à l'apparence, à ce que j'attends de lui, je ne l'aime pas. L'amour est extatique. Il me fait sortir de moi et de mon égocentrisme et de mon égoïsme. Je n'accapare pas, je me donne. Et se donner, c'est justement tout le temps aller plus loin. Et c'est la personne que j'aime et non pas l'amour de la personne. Vous voyez, là, je cherche quel est le